Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 36, le chapitre 389 de Mission Encre Noire qui commence. Une loi n'est pas une chose abstraite. C'est un char, c'est une balle de fusil. Elle a sa force d'impact. Quand elle arrive au bout de sa course, après avoir traversé un budget, un règlement, une procédure, un prix, un taux d'intérêt, un zonage, c'est le corps qu'elle finit par atteindre de plein fouet. C'est dans la chair qu'elle s'enfonce comme la lame d'un couteau. J'imagine bien que demander à la loi de tenir compte des corps qu'elle afflige, transforme, grignote, quand elle ne les dévore pas, lui demander de tenir compte de leur concrétude, soit au final de l'impondérable, de l'incalculable qui donne à ces corps-là leur caractère humain, c'est sans doute loin d'être évident. Pour y arriver, il nous faudrait une autre façon de calculer, une autre façon de lire le monde, surtout. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du Virus et la proie par Pierre Lefebvre, paru en 2022 aux éditions Éco-Société. Comment faire? Oui, comment réussir par se faire entendre alors que tout porte à croire que c'est impossible, alors que l'interlocuteur se dérobe? La campagne électorale bat son plein actuellement, comme on dit. Ne ressentez-vous pas cette légère démangeaison, l'étrange bourdonnement du vide autour des paroles qui s'échangent? Ce vide, cet oubli, c'est peut-être vous, nous, moi, quelqu'un n'ayant aucun pouvoir qui aimerait s'adresser à quelqu'un qui les possède tous. Personne ne vous ne nous écoute. Pierre Lefebvre signe ici un texte magistral, indispensable, qui se présente sous la forme d'une lettre qui dénonce le gouffre qui sépare les décideurs, les winners de ce monde et les autres. Un monde qui se meurt à l'agonie, mis à mort par des idéologies dévastatrices pour le fric. On a beau le dire, le répéter, personne n'écoute. Si les mots ont encore une force, Pierre Lefebvre saisit sa chance avec style et du caractère. Après la lecture de ce pamphlet, nous, vous aussi, pourriez dire « Monsieur, nous ne savons vraiment pas à quel degré d'insensibilité vous êtes parvenu. Vous, qui n'y verrez sans doute ici qu'une complainte de plus, vous manqueriez l'essentiel, quelque chose comme une déclaration d'amour à la vie, à son mystère, à sa beauté. » Je reçois ce soir Pierre Lefebvre à Mission Encre Noire. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Vous êtes ancien rédacteur en chef de la revue Liberté. Vous êtes l'auteur de pièces de théâtre, Loup et l'Ortie, produites par le Nouveau Théâtre Expérimental, ainsi que Extra Moyen, Splendeur et Misère de la classe moyenne, en partenariat avec Alexis Martin, paru en 2018 d'ailleurs aux éditions AMAC. L'essai Confession d'un cassé est lui paru en 2018 aux éditions Boréal. Vous avez également réalisé plusieurs documentaires radiophoniques pour Radio-Canada. Alors comme vous l'aviez démontré, la vie ressemble bien trop souvent à la fable de La Fontaine, Le Loup et l'Agneau, dans votre précédent livre Confession d'un cassé. Le loup ne se contente pas d'avaler l'agneau, le pire, la véritable violence, c'est le discours qu'il déploie. Est-ce que ce livre est né du prolongement de cette idée ?
Évidemment, on peut toujours dire que c'est en droite ligne avec le travail que j'ai fait dans Confession d'un cassé. Donc là, dans les confessions d'un cassé, au fond, je me demandais qu'est-ce qui arrive quand on vit dans une société où, en fait, la seule institution, pour ainsi dire, qui fonctionne encore, c'est l'argent. C'est la seule façon où la valeur d'usage des choses vaut toujours moins que leur valeur d'échange. Hein. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un tel monde quand on n'a pas beaucoup d'argent ou quand on n'en a pas? Et là, en avec le virus et la proie, ben je me suis intéressé plus directement à la question du pouvoir. Qu'est-ce que c'est vivre quand on n'a pas de pouvoir? L'idée m'est un peu venue. En fait, il y a eu différentes étapes qui m'ont mené à ce texte-là, mais je me souviens qu'on est né dans les années, mon Dieu, quand Philippe Couillard était notre premier ministre, il avait justifié sa politique d'austérité en disant qu'il n'avait pas le choix, parce que c'était à New York que ça se passait, dans les agences de cotation. Et il disait que si on n'y allait pas d'un budget d'austérité, les agences de cotation allaient décoter le Québec, et là, ça serait vraiment la fin du monde. Donc, il disait qu'il avait les mains liées. Et je me souviens justement que ce discours-là m'avait un peu terrorisé. Parce que je me dis, OK, ce type-là est censé me représenter. Ce type-là est censé être au pouvoir et me représenter. Et ben, si lui-même avoue qu'il n'a pas de pouvoir, moi, comme simple citoyen, qu'est-ce que j'ai?
Alors, on note évidemment le succès des correspondances. Prenons par exemple le succès des correspondances de Virginie Despentes ou même celui de Rodney Saint-Éloi et Yaraël Gadban, si on veut revenir plus près de chez nous. Mm-hmm. Cette forme d'écriture qui reprend du galon, pourquoi avoir choisi cette forme?
Ben, écoute, c'est vraiment un truc très, très terre à terre. En fait, à l'origine, c'est ça, il y a un proto virus de la proie. Il y a justement à l'époque où Couillard était premier ministre, il y a l'auteur et metteur en scène Olivier Chouanière qui m'a appelé pour me demander de participer à un de ses abécédaires. Donc Olivier, je sais pas là, une fois de temps en temps, il organise un spectacle qui s'appelle Abécédaire, où il invite 26 personnes à qui il donne une lettre et un mot, et il leur demande, à partir de ça, d'écrire une lettre à quelqu'un. Donc moi, je m'étais retrouvé avec elle pour libéral. J'ai écrit à Couillard, qui était à l'époque le premier ministre du Québec. Et une des choses que j'abordais dans cette courte lettre, parce que, bon, évidemment, comme on est 26 sur scène, les lettres se doivent d'être assez concises, donc... Une des choses que j'avais abordées, c'était l'impossibilité pour moi d'avoir un véritable dialogue avec lui. Mm-hmm. Et je m'étais dit, bon, qu'après avoir fait cette version-là, j'ai eu envie de poursuivre la réflexion. Parce qu'à quelque part, comme on n'arrête pas de dire qu'on est en démocratie, le fait qu'il n'y ait pas de lieu pour que, je veux dire, les gens qui ont du pouvoir puissent discuter avec ceux qui n'en ont pas, ça paraît quand même assez terrifiant. Puis là, évidemment, je parle pas juste des hommes et des femmes politiques, mais je parle aussi de ceux qui ont des grandes entreprises. Que ce soit, je veux dire, les entreprises privées module, dire le monde dans lequel on vit, façon, je veux dire, absolument spectaculaire. Si on reprend au début du siècle l'arrivée de la voiture, tu sais, il y a personne démocratiquement qui a commencé à dire on veut des chars. Mais à un moment donné, je veux dire, l'industrie de la voiture et du pétrole sont tellement puissants qu'ils ont complètement transformé, je veux dire, le visage des villes, je veux dire, on peut dire la même chose avec l'informatique, tu sais, quand le monde chez Apple se dit, OK, l'idéal, ça serait que tout le monde ait un ordinateur chez eux, puis éventuellement, l'idéal, ça serait que tout le monde ait un téléphone intelligent avec lui. Ben, tout ça, je veux dire, vient modifier nos façons de vivre. Mm-hmm. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, je veux dire, avec les courriels, avec les téléphones, on est censé pouvoir répondre, que ce soit à nos parents, à nos patrons ou à nos amis, je veux dire, dans la seconde où on reçoit un truc. Je veux dire, et cette vitesse-là, je veux dire, cette exigence-là d'être toujours, tu sais, sur le piton, d'être toujours, tu sais, prêt, je veux dire, à répondre à ce qu'on nous envoie. C'est quand même une façon, je veux dire, assez terrifiante d'être en vie, tu sais, d'être toujours pogné, d'être toujours sur le qui-vive. Et évidemment, mais il n'y a personne qui a demandé. Tu sais, il n'y a jamais eu de discussion démocratique pour lui, mais est-ce qu'on veut vivre à ce rythme-là?
Alors, j'aimerais qu'on précise aussi que Le virus et la proie, bah, c'est une pièce de théâtre avec une mise en scène signée Benoît Vermeulen, qui est en représentation au Centre du théâtre d'aujourd'hui sur Saint-Denis à Montréal et qui va avoir lieu du 30 novembre au 2 décembre 2022. Vous allez pouvoir, chère auditrice, auditeur, profiter un petit peu plus loin d'une façon un petit peu différente de ce texte. Le virus et la proie, alors de quoi s'agit-il et surtout, pourquoi vous vous adressez à un homme en particulier?
Ben, parce que, je veux dire, encore aujourd'hui, je veux dire, le pouvoir est masculin. En fait, à l'origine, si on imagine qu'il y a deux protagonistes, c'est-à-dire quelqu'un qui crie, qui n'a pas de pouvoir, à quelqu'un qui a du pouvoir, j'avais envie qu'on sache le moins de choses possible et sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire que la seule chose qui m'intéressait, c'est qu'on sache qu'il y en a un qui a du pouvoir, et il y en a un autre qui en a pas. Et encore aujourd'hui, si que ça soit, je veux dire, à la tête des ministères ou à la tête des gouvernements ou à la tête des conseils d'administration des grandes compagnies ou à la tête, je veux dire, des grandes banques, je veux dire, ceux qui dirigent sont encore, je veux dire, en vaste partie des hommes.
Ouais. Mais même si vous constatez qu'il est ardu de trouver une agora, une place pour s'exprimer, comme vous le disiez tout à l'heure, un lieu pour véritablement échanger, votre parole ne vient pas de nulle part. Elle est érudite. Vous citez Dali, Buñuel, Van Gogh, Balzac même. Vous utilisez la parole des même le ton et la parole des exploiteurs. Vous parlez de la méthode Lean un petit peu dans le texte. Ressentez-vous une responsabilité à prendre la parole précisément? Est-ce que la qualité d'écriture est nécessaire justement et surtout essentielle pour se faire entendre? Autrement dit, sans style, sans impact, la langue vaut-elle quelque chose finalement face à des puissants?
Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est ce que je faisais avec le cassé, puis c'est ce que j'ai fait aussi avec Alexis dans Extrême Moyen, c'est ce que je fais dans le virus. Aborder des questions politiques par le biais de la littérature, ça m'apparaît extrêmement intéressant parce que la langue du pouvoir est toujours une langue monosémique. Le pouvoir, je veux dire, une des raisons pour laquelle le pouvoir aime pas la poésie, tu sais, c'est que ni la littérature, ni les arts en général, à moins que ce soit pour le divertissement, la poésie, nous rappelle que les choses ont toujours plusieurs sens, ont toujours plusieurs angles. Et la littérature, si elle a une force politique, c'est justement de nous rappeler que le monde n'est pas tel qu'on nous le représente. C'est ou que la façon dont le pouvoir nous présente le monde est une représentation et non pas le monde lui-même. Et quand on parle de la main invisible, c'est une métaphore. Toute parole est toujours métaphorique. Et le pouvoir a justement le pouvoir de nous faire croire que sa parole n'est pas métaphorique, qu'elle dit le réel. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été, je me souviens plus à quelle époque, je pense que c'est dans les années 2000, mais quand Lucien Bouchard avait en fait organisé un groupe qui s'appelait le groupe des Lucides, où il venait enjoindre des économistes, des anciens hommes politiques, tout ça, qui enjoignait le gouvernement qui était au pouvoir à ce moment-là à aller du côté d'une politique d'austérité. Et juste le fait que des gens qui défendent cette idée-là, d'une politique d'austérité, se disent lucides, c'est une violence hallucinante parce que ça veut dire que si toi, t'es pas d'accord avec la lecture qu'ils font du monde, ben, t'es pas lucide. Il y a vraiment quelque chose d'hallucinant, dans cette capacité du pouvoir, justement, de présenter les choses telles qu'elles sont, de prétendre que le réel est tel qu'il l'énonce, est tel qu'il le dit, tel qu'il le représente. Et c'est pour ça, moi, que j'aime la littérature et que je l'aime particulièrement quand elle aborde des questions sociales et politiques, parce qu'elle arrive à nous montrer l'envers du décor. Elle arrive à dire, ben non, je veux dire, ce que le pouvoir nous dit, c'est une interprétation, c'est une lecture du monde. Et des lectures du monde, ben, il y en a à foison.
Je vais vous citer, « Une loi n'est pas une chose abstraite, c'est un char, c'est une balle de fusil, elle a sa force d'impact. » Alors, trouvez-vous que c'est encore plus vrai aujourd'hui? Est-ce que les épisodes terroristes du post-11 septembre, Charlie Hebdo, les épisodes du confinement autour du virus Covid-19, est-ce que ces épisodes ont fragilisé certains piliers de nos démocraties ou certains piliers qui garantissent la paix sociale?
Je me méfie de... j'ai pas l'impression que c'est pire aujourd'hui. C'est, on est toujours pris dans le brouillard de notre époque. Donc, est-ce que les institutions sont plus fragiles aujourd'hui que, mettons, il y a 40 ans ou qu'il y a 100 ans? Tu sais, le 20e siècle, ça a quand même été le festival de la boucherie, non? Mmh. Je veux dire... est-ce que les institutions n'ont pas été capables d'arrêter ni la Première ni la Deuxième Guerre mondiale? Les institutions allemandes n'ont pas été capables d'arrêter le nazisme. Les institutions, ça reste un truc hyper fragile, non? Donc, aujourd'hui, effectivement, je veux dire, peut-être qu'on a l'impression que je crois que les 20, surtout qu'à partir des années 80, avec la révolution conservatrice, un retour de la droite qui, je veux dire, ne fait que gagner du terrain. Quand la gauche même, t'sais, quand les partis de gauche eux-mêmes ont un discours de droite, c'est-à-dire on est dans une hégémonie qui est difficile à contrebalancer. Donc, j'ai pas l'impression, en tout cas, pour répondre à ta question, j'ai pas l'impression que les institutions sont plus fragiles aujourd'hui qu'avant. Mais je veux dire, elles sont attaquées autrement, mm-hmm. tu sais, qu'elles ont pu l'être attaquées dans le passé.
Alors, vous adoptez parfois la position du bouffon du roi ou du guignol, celui qui botte les fesses du roi, comme cette fête païenne du Moyen-Âge que vous relatez dans le texte. Manque-t-on justement de fêtes païennes, style un vrai carnaval au sens originel, c'est-à-dire un vrai exutoire qui serait assez menaçant et offensant pour le pouvoir, où le peuple rappellerait le pouvoir du nombre et le pouvoir d'une certaine folie. Est-ce que ce mot a été tellement galvaudé, on va dire festival, carnaval, est-ce que cela vous parle?
Oui, effectivement. Je veux dire, on n'arrête pas de parler de fêtes, d'événements festifs, mais je veux dire, effectivement, des fêtes carnavalesques, comme il pouvait y en avoir au Moyen-Âge. C'est la fête de l'âne, quand même. On habillait un âne avec des habits d'évêque, puis on le faisait rentrer dans l'église. Puis c'était l'âne qui donnait la petite. C'était l'âne qui était supposé dire la messe. Il y avait, le peuple qui, tout à coup, là, rentrait, je veux dire, dans les officines de pouvoir. Puis imagine, qu'aujourd'hui, je veux dire, une fois par année, on pourrait rentrer, je veux dire, au Parlement, pour moquer, je veux dire, ce qui, les paroles. Aussi, comment des moments carnavalesques comme ça seraient traités si on regarde encore 2012, dans les manifestations de 2012, il y avait justement tout un aspect carnavalesque. Il y avait beaucoup d'humour dans les manifs de 2012. Il y avait quelque chose, et il y avait beaucoup d'inventivité. Il y avait beaucoup, mais cette inventivité-là, ce rire-là, était aussi, je veux dire, backé par une espèce de violence, de présence du monde. De présence du nombre qui était là. Et ça, évidemment, aujourd'hui, je veux dire, c'est impensable.
J'allais rebondir justement sur le fait que, parlant d'un événement un peu incroyable qui serait vu avec un regard un petit peu trop critique aujourd'hui, n'oublions pas que Catherine Dorion est entrée au Parlement avec un coton ouaté, ça a fait tout un scandale. Ouais. Juste pour citer ça.
Mais c'est ça, exactement. Je veux dire, oui, puis là aussi, c'est intéressant parce que, je veux dire, je disais tout à l'heure que le pouvoir tient un discours monosémé, ben c'est pareil, je veux dire, là, tout à coup, il faut s'habiller comme un bourgeois. Je veux dire, si tu t'habilles pas comme un bourgeois pour aller, tu sais, comme un... Si tu t'habilles pas comme quelqu'un qui est sur le CA d'une banque, t'sais, si tu t'habilles pas comme un gérant de caisse populaire, t'es jugé pas crédible. Et même, on considère que tu offenses, je veux dire, l'institution des parlementaires. C'est quand même assez hallucinant.
Votre style fait toute la différence hein, dans ce livre. L'ironie se dispute à l'arrogance, à l'auto-apitoiement parfois, à l'invective. Mais j'aimerais aussi, justement, aborder un aspect de ce livre qui est essentiel et qu'il ne faut pas louper. J'en parle un peu dans l'introduction. Et pour ce faire, j'en appelle à Jean-Luc Godard, enfin, en tout cas, un extrait d'un de ses films, puisqu'il vient de disparaître, où on entend, on entend Marguerite Duras dans Sauf qui peut la vie, qui a ces paroles. Écrire, tu vois, c'est quand même disparaître un peu, c'est être derrière quelque chose. Et effectivement, vous baissez la garde par moments dans ce livre, vous jouez la carte de la vulnérabilité, vous interrogez votre haine et votre peur, vous devenez intime avec votre lecteur, votre lectorat, votre lectrice. Alors pourquoi la haine et la peur sont-ils déjà... C'est peut-être déjà exprimé trop de sentiments. D'ailleurs, à un moment donné, vous prenez l'exemple d'un homme qui va mettre sa mère dans un CHSLD.
Ben oui, parce que on en revient à tu sais, tantôt quand on disait oui, ben une loi, c'est comme une balle de fusil. Tu sais, la façon dont les puissants façonnent le monde, que ce soit avec les lois ou avec les marchandises. Je veux dire, ça nous impacte directement. Tu sais, c'est la politique, tu sais, la sociologie, c'est jamais des choses abstraites. Tu sais, c'est toujours concret. Quand on interdit, je veux dire, le droit à l'avortement, c'est concret en crise, ça rentre dans le corps. Tu sais, quand on dit que, je veux dire, l'espérance de vie est moindre dans Saint-Michel que dans Westmount, je veux dire, à un moment donné, tu sais, un écart d'espérance de vie de 10 ans, c'est pas abstrait. Tu sais, ça rentre dans le corps et là aussi, je veux dire, si ça rentre aussi, je veux dire, c'est aussi la question des affects. Je veux dire, la tristesse, l'angoisse, le monde, je veux dire, t'sais, quelqu'un qui perd sa job, je veux dire, souvent, les gens, tu sais, font des dépressions, je veux dire, ils deviennent alcoolos, ils vont finir par se séparer de leur conjoint, de leur conjointe. C'est très, très concret. Et la politique, c'est là que ça nous mène. Ça nous mène, je veux dire, soit à de la douleur, soit à du plaisir.
Quand vous jaugez la campagne actuelle, puisqu'on est dans le sujet, jugez-vous que ce sont finalement des êtres humains, ces politiciens ou ces politiciennes qui font campagne et qui nous parlent, ou bien ressemblent-ils ou ressemblent-elles plus à des machines ou des hologrammes?
Ben, c'est sûr qu'il faut faire, c'est ça, en fait, j'ai l'impression quand je vois, mettons, des Legault ou même Duhaime ou bon, peu importe, je veux dire, tu sais, qui sont pas, tu sais, en psychanalyse, on dit d'un passé, tu sais, on va dire d'une personne, tu sais, qu'elle est agie, tu sais, c'est-à-dire que bon, la personne, mettons, va tromper sa blonde à répétition ou va constamment perdre ses jobs. T'sais, c'est pas tant qu'elle agit qu'il y a quelque chose en elle qui la fait agir de la sorte. T'sais. Et bon, mais toute la cure psychanalytique va être d'essayer de découvrir ben qu'est-ce qui fait, quelles sont les pulsions en toi qui font que tu agis de la sorte, ça te rend malheureux. Et ben, quand je vois le coup, quand je l'entends, j'ai l'impression qu'il agit, justement. L'impression qu'il répète, je veux dire, une espèce de petit catéchisme auquel il croit, en plus. C'est ça qu'il dit, on pourrait dire. C'est ça qui est triste. Moi, je suis sûr qu'il est convaincu que le troisième lien, je veux dire, c'est quelque chose de bien. Retrouver l'humain derrière cette façade-là, Je veux dire, c'est un travail. Tout le monde a déjà travaillé, je veux dire, pour un patron ou Dieu. Tu dis, ah, fuck, si, c'est quelqu'un qui tripe sur le pouvoir, tu sais, puis qui tripe l'hiérarchie, puis que tu dis, ah ouais, OK, il faut faire un effort pour se rappeler que c'est un être humain. Tu sais, parce que c'est facile aussi de dire, ah oui, mais c'est bien qu'un trou de cul. Tu sais, non, mais c'est sûr, je dis, puis c'est le réflexe premier, puis ça m'apparaît, c'est tout à fait légitime. Mais à un moment donné, tu te dis, ah, je peux pas passer ma vie à me dire que ceux qui sont pas d'accord politiquement avec moi disent que c'est tout des mangeons de merde. Là, c'est une façon de couper le dialogue.
Que j'ai lu en fait un journaliste ou une journaliste qui te posait la question, qui te demandait ta couleur politique finalement, puis tu lui réponds je ne suis pas vraiment anarchiste, je suis balsacien. Alors moi, ça m'a intrigué, je me suis dit la figure du héros balsacien, c'est quand même c'est quelqu'un qui est plutôt beau, qui est de la fortune, qui a du tempérament fort, et pourtant sa destinée, c'est comme il finit soit en correctionnel, soit là il connaît la ruine, soit il connaît le déshonneur. Je trouvais ça assez drôle.
Ah oui, oui. je dis que je suis balsacien parce que tout ce que j'ai pu apprendre sur le capitalisme, mon introduction à une pensée critique du capitalisme, moi, m'est pas venu de Marx, ça m'est venu de Balzac. Parce que chez Balzac, je veux dire, l'argent circule, je veux dire, dans la cité comme une libido. Et dans tous ses romans, c'est soit un personnage secondaire, soit un personnage principal, où il y a toujours un ou une dingue, je veux dire, assoiffé de quelque chose, puis qui, pour atteindre, je veux dire, l'objet de son désir, va dépenser de l'argent, généralement, jusqu'à la ruine. Et ce que Balzac fait de génial, c'est qu'il suit le circuit de cet argent-là. Et on voit très bien que l'économie capitaliste qu'on nous présente comme un truc de raison, qu'on nous présente comme un truc de calcul, est en fait un truc pulsionnel. Hein? Puis que si main invisible il y a, je veux dire, c'est certainement pas une main raisonnable. Je veux dire, c'est une main déréglée par un appétit qui ne sera jamais satisfait.
Lire ce texte en pleine campagne électorale, en tout cas, cher auditeur, chère auditrice, vous fera l'effet d'un trou normand, une claque de fort pour vous remettre en appétit, pour pourquoi pas remettre quelques idées à leur place avant l'échéance du vote. Il y a des prises de parole qui comptent. Ce texte magistral en est un, Le virus et la proie de Pierre Lefebvre, paru en 2022 aux éditions Éco-Société. Merci Pierre d'être passé à Mission Encre Noire. Siobhan se révère à l'image des héroïnes de ses livres préférés, en fille détective, en fille aventurière, plutôt garçonne, combative et débrouillarde, capable de déjouer les adultes et de survivre sans eux, le corps tanné et émacié par une existence vagabonde. Au lieu de cela, c'était une rousse aux yeux bleus couverte de taches de son, blême et pataude comme une brique de shortening, et à qui on interdisait de se servir de la cuisinière. La seule fois qu'elle s'était retrouvée seule à la maison après la tombée de la nuit, elle avait allumé toutes les lampes, la télévision et la chaîne stéréo, incapable de se passer de leur protection sonore et lumineuse. Elle avait hâte plus que tout à l'excursion en kayak, la grande aventure de la première semaine. Les filles, divisées en petits groupes, navigueraient jusqu'à une île lointaine et y passeraient la nuit. Le dépliant insistait à l'intention des parents sur cette nuitée conçue pour forger le caractère et inculquer un intérêt pour la nature dans des conditions parfaitement sécuritaires. Mais aucun adulte n'apparaissait sur les photos. Juste des campeuses qui prenaient la pose dans leur kayak, brandissant triomphalement leurs pagaies, transportaient des bûches ou des sacs en toile de style militaire dans leurs bras chétifs, sautaient dans la mer en se tenant par la main. Avec leur large sourire découvrant des dentitions inégales, avec leurs tresses ou leur queue de cheval austère, c'était des filles pirates, des filles capitaines de vaisseaux spatials, des princesses guerrières. de fabuleuses cohortes d'enfants affranchis qui n'existaient que dans les livres de Siobhan. Ceci est un extrait de « 5 filles perdues à tout jamais » par Kim Fu, avec une traduction de l'anglais par Annie Goulet, parue en 2022 aux éditions Héliotrope. L'écho de l'hymne du camp de vacances « Au camp Forevermore » résonnera encore longtemps aux oreilles de ces 5 filles qui ont entre 9 et 11 ans. Alors qu'elles quittent le rivage en kayak, ce jour de 1994 sur la côte nord-ouest du Pacifique, elles ne se doutent pas du cauchemardesque rendez-vous que leur réserve le destin au petit matin après une nuit passée à la belle étoile sous la tente sur une île isolée guidée par leur monitrice. Si le récit de ces 5 filles perdues au milieu de nulle part constitue le fil conducteur, l'autrice habilement nous convie à explorer les suites de ce traumatisme dans le continuum de vie de chacune d'entre elles. Cette tragique aventure initiatique pour Nita, Andy, Isabelle, Dina et Siobhan porte en quelque sorte en elle la suite du monde. Comment vont-elles surmonter cette faille originelle ? Brillamment mené, ce roman nous permet d'emprunter les sentiers tortueux de ces 5 schémas de vie, quitte à bousculer au passage quelques certitudes. Je vous propose de visiter les coulisses de cette histoire en compagnie de sa traductrice Annie Goulet, qui est invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Annie.
Bonsoir Eric.
Vous avez fait des études en littérature française à l'Université de Montréal. Vous avez obtenu en 2004 le prix pour la meilleure nouvelle ainsi que la bourse Monique Bosco pour la création littéraire. Vous œuvrez depuis 2006 dans le milieu de l'édition à Montréal et notamment éditrice aux éditions Héliotrope. Alors je sais bien que cela est parfois difficile de parler d'un livre qui n'est pas le sien. En revanche, je trouve que l'idée de parler de la traduction et du travail autour du livre donne toujours un éclairage particulier, comme se permettre d'œuvrer en coulisses du roman. Alors tout d'abord, merci de vous prêter au jeu ce soir, Annie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'univers de Kim Fu ? Est-ce la lecture du premier roman, For Today I Am a Boy, ou avez-vous, par exemple, travaillé avec l'autrice pour préparer cette traduction ?
Alors, effectivement, déjà, on connaissait son univers parce qu'on avait travaillé, j'ai travaillé très étroitement avec Jeanne Auclair, qui a traduit le premier roman, qui est excellent. Je ne dis pas parce qu'on l'a publié, mais je le dis parce que c'est ce que je ressens en lisant Kim Fu. Elle a une habileté à construire des personnages et elle a une manière absolument particulière, je trouve, de laisser voir le temps qui passe. C'est-à-dire qu'elle a une façon d'aller dans l'expansion du temps où elle prend vraiment bien son temps. Il y a quelque chose de très exhaustif dans ce qu'elle raconte. Et en même temps, il y a la contraction. Elle est capable de faire des ellipses très subtiles qui nous permettent de traverser toute une vie, par exemple, mais en prenant chaque fois son temps d'entrer dans une scène ou une séquence qui soit signifiante dans la vie du personnage. Et c'est quelque chose qu'elle reproduit également, surtout en fait, dans son deuxième roman, The Lost Girls of Camp Forevermore.
Alors le titre, précisément, parlons-en, le titre déjà représente un défi. L'original, vous le citiez tout de suite, The Lost Girls of Camp Forevermore, 5 filles perdues à tout jamais en français. Alors l'ambiguïté de Forevermore se devait d'être soulignée, j'imagine.
Oui, alors il y a quelque chose dans le nom du camp, évidemment, qui évoque les questionnements même du roman, donc la question du destin, la question de la formation de l'identité. Est-ce qu'on est à tout jamais marqué par les traumatismes qui ont marqué notre enfance? Est-ce qu'on est à tout jamais la personne qu'on a été aux premières années de notre vie? Donc effectivement, le nom du camp, c'est décrit dans le premier chapitre, hein, le camp, il s'appelle comme ça pour imiter une espèce de sagesse ancestrale autochtone. Bon, on est au Canada ou aux États-Unis, mais dans le nord-ouest du pays, là, au bord du Pacifique. Donc, il y a cette évocation-là de la sagesse ancestrale qui justifie le nom du camp. Mais alors, effectivement, dans le titre, ça annonce quelque chose. Et on voulait absolument conserver cette idée-là sans nécessairement mettre dans notre titre à nous un mot anglais. Et par ailleurs, moi, j'avais pris le parti de ne pas traduire le nom du camp pour conserver une espèce de couleur locale. On était très situé dans le roman et donc j'avais pas envie de traduire les noms propres. Donc, il a fallu trouver un espèce de détour pour conserver cette idée de l'à tout jamais dans le titre, sans nécessairement conserver le forevermore.
Alors, comme nous avons la chance de vous avoir ce soir, nous avons la traductrice de ce roman. C'est rare, d'ailleurs, d'avoir une traductrice ou un traducteur. Je le fais assez souvent, mais enfin bon, c'est rare qu'on parle de cet exercice-là. Comment avez-vous procédé ? Vous commencez par une première lecture, j'imagine. Qu'est-ce qui ressort comme impression d'une première lecture ? Quel sentiment par rapport à ce roman-là ? Et j'aimerais savoir aussi comment classez-vous ce livre qui est très riche en personnages, en sujets, en thèmes traités? Comment vous abordez justement cette traduction a priori?
Il y a quelque chose dans l'écriture du deuxième roman qui nous a rappelé l'écriture du premier. Donc, tout le travail qu'on avait fait dans l'univers de Kim Fu nous a servi à plonger dans le deuxième roman. On l'a lu chez Heliotrope avec un petit comité et on s'en est parlé longuement avant d'obtenir les droits. Tout le monde était très emballé par ce texte-là. Donc, on a commencé à réfléchir très tôt à la façon dont on pourrait le traduire en français, c'est-à-dire comment on s'occuperait des temps verbaux, des questions de traduction inévitables, comment on s'occuperait des temps verbaux, comment on s'occuperait des questions de vouvoiement, des navigations, des niveaux de langue dans les dialogues, des choses comme ça. Donc, on a établi avec mon éditrice, c'est ma collègue d'habitude, Olga Duhamel-Noyer, et dans le cas de cette traduction-là, c'était mon éditrice. Donc, on a établi ensemble un certain nombre de choses, on a fait des tests. Moi, j'ai traduit quelques pages sur lesquelles on s'est penché plus précisément pour voir ce qui accrochait, qui poserait des défis. Je dois dire que moi, c'est ma première traduction littéraire. J'avais fait de l'adaptation pour le cinéma avant, mais c'est le premier roman que j'ai traduit. Et j'ai été assez soulagée de voir que sur le plan technique, disons, ce roman-là ne posait pas trop d'écueils. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de pièges dedans. Ça a été un exercice relativement confortable pour moi en tant que néophyte, si vous voulez. Mais on a pris le parti, par exemple, de ne pas mettre d'argot français, mais de ne pas non plus appuyer trop fort sur le français québécois, puisque, comme je le dis au début, c'est un texte qui est situé dans un contexte de la côte ouest, donc il n'y a pas de personnages qui voyagent à Montréal, comme il y en avait dans For Today I'm a Boy, par exemple. Ce qui justifiait davantage l'usage d'un français plus québécisant, si vous voulez. Donc, mais c'est un jeu d'équilibre. C'est ce dont je me suis rendu compte.
Alors justement, ouvrons un petit peu la petite lucarne, allons voir d'un peu plus proche cette histoire. Ce roman n'est pas un livre sur la survie en forêt, et pourtant un peu quand même. Ce n'est pas un thriller. Pourtant, cette partie qui constitue le fil du récit est palpitante, angoissante et représente en quelque sorte, je dirais même, la clé de voûte de l'histoire. Cette partie, justement, du récit, l'histoire au camp et ses conséquences, s'intercale dans le livre entre les récits de vie des principales protagonistes. Alors la question, c'est avez-vous suivi le fil de l'histoire, pour traduire? Est-ce que avez-vous suivi la structure originelle même du livre en anglais? Est-elle la même en français?
Oui, tout est oui absolument. La traduction s'éloigne pas du tout de la structure de l'original. Il ne viendrait pas à l'esprit de faire quelque chose de différent. Donc c'est la façon dont Kim Fu a décidé de présenter son histoire. Et c'est une structure qui appelle beaucoup, beaucoup de suspense. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, il y a l'histoire du camp qui se déroule au moment où les personnages ont entre 9 et 11 ans. Et cette histoire-là, elle se situe sur 5 chapitres qui sont intercalés des chapitres que j'appelais les chapitres, en traduisant, je les appelais les chapitres de destin. Alors, on a le destin d'une telle, le destin d'une telle autre. Et donc, ça prend du temps dans la lecture avant qu'on sache qui finalement arrive à tout le monde. Comment elles s'en sortent, qui s'en sort, à quel point amochées elles s'en sortent. Donc, il y a une grande tension qui s'installe dans cette structure-là. Et entre-temps, on prend des pauses et on va faire une incursion vraiment très profondément dans la vie, dans le destin des personnages. Et on les voit survivre et évoluer au-delà des années du camp. Donc, on a un peu une impression de 6 romans en un.
Ouais. Comment avez-vous envisagé justement ces différences de ton et de regard sur, dans le texte et sur les vies des jeunes femmes?
Oui, eh bien, c'était déjà présent dans l'original, donc c'était plus ou moins facile à transposer, si vous voulez. Mais c'est vrai que oui, il y a une légèreté au début. En revanche, je trouve que dès le premier chapitre qui ouvre le roman, qui est celui où les petites filles arrivent au camp de vacances et ont des démêlés avec les gilets de sauvetage, font des leçons de kayak, etc., il y a quelque chose qui s'installe d'assez sombre, ou en tout cas, il y a un mauvais présage. On le lit entre les lignes, les petites filles se lancent des regards torves, il y a des associations qui se font, des alliances, etc. Il y a des gens qui sont laissés à l'écart. Donc, il y a quand même quelque chose de... On n'est pas que dans la gaieté. Hein. Au début, même si il y a quand même la grande aventure qui les appelle, puis rien ne leur apprend d'avance qu'il va se passer cette catastrophe sur l'île. Mais oui, c'est ça, on n'est pas tout à fait dans la gaieté. Après, pour le ton dans les répliques, dans les dialogues de personnages, on a beaucoup hésité. Par exemple, est-ce qu'il fallait emprunter un code plus romanesque avec des nœuds de négation dans les dialogues? Bon, ça, c'est un peu technique, là, si vous voulez. Mais au final, on s'est dit, mais Kim Fu nous met 5 personnages d'enfants ensemble qui se parlent, absolument pas supervisés par des adultes. Il y a un long passage dans le roman où les 5 petites filles sont ensemble, sans supervision, sans adultes, elles sont carrément seules au monde sur une île. Donc, il fallait, elles étaient complètement libres de se parler comme elles se parleraient le plus naturellement possible. Donc, c'est ça que j'ai essayé de recréer plus ou moins dans les chapitres du camp, dans leur enfance. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de... Dans l'urgence, on fait pas de fioriture dans le langage, il y a quelque chose de très immédiat. Et plus tard, c'est vrai, ben, selon ce que chacune devient, chacune a son langage, ses points de référence, tout ça. Donc oui, il y avait quand même, c'est très amusant d'ailleurs d'essayer d'imaginer comment chacune s'exprimait ou répondait. Elles sont beaucoup dans la réaction aussi.
Ce roman est-il une sorte de métaphore? Il est difficile de ne pas se figurer que la violence subie, ce choc émotionnel que subissent les jeunes filles dans leur jeune âge, n'induit pas forcément des conséquences pour la suite des choses. Est-ce une métaphore, je dirais, sur toute forme de violence qui peut arriver dans l'enfance a forcément des conséquences, sans aborder un thème, je dirais, malheureusement tragique aujourd'hui sur les violences sexuelles ou autres, mais est-ce qu'à votre avis, on est sous une forme de métaphore d'histoire s'agissant des violences subies dans la jeunesse?
Je ne sais pas si j'en parlerai dans ces termes-là. C'est sûr que, par exemple, l'édition américaine du livre, dans les communications autour du livre, sur le texte, dans le texte de 4e de couverture, parle beaucoup de la question des effets du trauma. Donc, on part du point de départ qui est le traumatisme du camp de vacances et de l'aventure qu'elles ont vécu là, et on essaie de se... Il y a quelque chose de la détection, hein. On joue un peu les détectives, on essaie de voir à quel point ça aura forgé leur personnalité, leur vie même. Il y a quelque chose de... On essaie de mesurer une certaine détermination, si vous voulez. Et je me souviens qu'en comité, quand on en parlait entre nous chez Héliotrope, on imaginait plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on imaginait a posteriori, ayant lu les destins des personnages et les connaissant très bien. Donc, je trouve que c'est important de le dire. Quand on sort d'un de ces chapitres du destin, quand on vient de voir la vie entière d'un des personnages, on a vraiment l'impression de la connaître intimement. Et donc, on avait plutôt l'impression que c'est a posteriori qu'on pouvait éclairer leurs gestes au moment l'expédition sur l'île. Donc, on avait l'impression de... Puis, comme on sait, effectivement, pas tout de suite, enfin, jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qui leur arrive, on pouvait s'amuser à retrouver dans leurs gestes d'enfance des indices de ce qu'elle serait, plutôt que l'inverse. En tout cas, mais je ne sais pas si je peux dire que c'est une métaphore. Enfin, je sais que Kim Fu elle-même, en présentant son livre pour les libraires du Québec lors de la journée organisée par notre diffuseur cet été, elle disait, au fond, le traumatisme initial, c'est un peu un leurre, parce qu'on sait tous que ce qui attend les femmes dans leur vie, c'est d'autres formes de traumatisme sont d'autant plus, sont autrement plus graves que celles de craindre, je sais pas, l'arrivée d'un cougar sur une île. Enfin, il y a quelque chose d'un peu fantasmatique dans cette histoire-là du camp, qui est une espèce d'aventure, effectivement. Ben, peut-être qu'en sens, là, c'est une métaphore, au fond, je m'écoute parler. Peut-être que c'est ça, au fond, il y a le truc de l'aventure, et puis, au fond, on s'inquiète pour des choses qui sont très peu susceptibles d'arriver, alors qu'on sait très bien que, oui, chacune de ces filles-là va devenir une femme et va se heurter à des écueils, et va subir des menaces ou rencontrer des menaces qui sont tout aussi dramatiques dans leur vie, inévitablement.
Alors, je n'irai pas dans la description de chacune des personnages, bien évidemment, mais je prendrai le destin d'un des personnages, justement. J'irai parler de Kayla, Andy, Allen. En fait, ce sont deux sœurs que l'on retrouve dans le roman. Leur père les abandonne 3 ans avant le camp de Forevermore. C'est le début d'une errance, puisque leur mère les emmène de Waco, Austin, Texas, Knoxville, Billings, Montana, Denver, jusqu'en Ontario, etc., etc. Kayla et Andy, qui sont très tôt, sont unis dans l'adversité. Kayla va découvrir la foi avec le directeur musical d'une petite église évangélique communautaire. Et elle va aussi rencontrer le propriétaire de la bâtisse qui l'éloge plus tard, quand elle devient un petit peu plus âgée, Walter, qu'elle va épouser plus tard. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est juste pour vous demander, justement, l'épisode du camp pour Kayla, par exemple, ou Andy, qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce que cela a révélé? Est-ce que ça a révélé une certaine fragilité, selon vous, une fragilité intrinsèque?
Oui, c'est intéressant. Ce chapitre-là est particulièrement intéressant parce qu'au fond, on s'attend à suivre Andy, qui est la plus vieille des deux sœurs et qui est celle, effectivement, qui va au camp. Et au fond, dans tout ce chapitre-là, Andy, elle est très effacée et c'est sa jeune sœur qu'on suit davantage, alors qu'on ne la voit pas sur l'île, elle n'est pas là. Mais il y a quelque chose là-dedans de très intéressant sur la façon dont on arrive à survivre, je trouve. C'est ça le nœud de ce chapitre-là, il me semble. Donc, Andy, la grande sœur, bon, on la voit très débrouillarde, on la voit dans tout ce périple-là à travers les États-Unis amasser des restes de nourriture qu'elle va cacher au fond de son sac de couchage ou dans un grand bac où on distribue des vêtements usagés. Elle va prendre indifféremment tout ce qui est à sa taille, tout ce qui est chaud, des vêtements pour toute saison, alors que sa jeune sœur, un peu plus tête en l'air, disons, elle va prendre seulement des pièces de vêtements qui l'intéressent, ou quand elle aime pas manger, elle va renoncer à manger son repas quand elle aime pas la nourriture, alors que Andy, elle est dans un mode survie depuis le début. Et là, elle va s'en remettre beaucoup à la fois aux hommes qui l'entourent, elle va s'appuyer là-dessus, elle va un peu embrasser sa fragilité dans l'espoir d'être protégée, alors qu'Andy est plus autonome. Vous voyez, elle va se sauver, elle va trouver ce qu'il faut pour elle-même, pour survivre, et elle va se retirer plus ou moins des situations de danger en s'isolant. C'est très amusant, ce contraste-là.
J'aime aussi beaucoup l'approche de Kim Fu autour des genres, de l'origine ethnique, des personnages. Il est impossible de deviner de prime abord l'origine des gens, si ce n'est leur histoire, celle que chacune révèle. Il y a beaucoup d'empathie dans cette écriture.
Absolument. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'empathie. C'est un livre, une lectrice m'a dit ça récemment, c'est un livre qui s'adresse au cœur. C'est vrai, mais bon, à la tête aussi. C'est un livre très riche, je trouve. Il y a beaucoup d'empathie pour les difficultés que traversent les femmes dans la vie en général, mais pour également les gens d'origine culturelle diverse, il y a beaucoup de choses qui se... C'est-à-dire que c'est un livre qui se lit, je trouve, a priori, comme un livre d'aventure, comme une grande saga, enfin, 5-6 grandes sagas, si vous voulez, en une. Mais par ailleurs, il y a une espèce de richesse dans le contenu thématique qui est très subtilement distillé dans l'écriture. Je trouve que c'est un livre qu'on peut relire, ben, ce que j'ai fait d'ailleurs hein, dans le travail de traduction, qu'on peut relire selon plusieurs points de vue différents. On découvre en télé beaucoup d'enjeux se jouent entre ces pages-là. Le personnage de Dina qui a des grandes ambitions de célébrité et tout ça et qui se heurte à un certain racisme dans la société. Donc, il y a ça aussi qui est présent dans l'intrigue.
Quand sait-on que la traduction est juste? À quel moment vous vous dites « j'ai le bon rythme, je tiens le texte » J'ai compris la démarche de l'autrice. Est-ce une opération de remise en question à chaque ligne, à chaque page, ou bien est-ce en dernier recours lors d'une lecture finale, par exemple?
C'est constant. Je me suis posé des questions sur la justesse de la traduction jusqu'à la fin. Je pense que tout est... Contrairement à ce qu'on lit quand on écrit, quand on travaille le texte des autres, on a l'impression que c'est tout le temps perfectible. Alors que, bon, quand on écrit un roman, il y a un moment où c'est fini. Il faut arrêter. Mais on le voit pas comme ça dans cette perfectibilité-là. Il y a un moment où, ça y est, le roman est le roman. Il vit, il est tel qu'en lui-même et il doit être libéré dans la nature. Alors que moi, je suis plutôt une éditrice, en tant que traductrice, c'est un peu la même chose. Je me suis posé des questions sur chaque mot, sur chaque phrase, sur chaque virgule jusqu'à la fin. Et j'ai eu évidemment beaucoup d'aide tout au long du processus. C'est pas un travail qu'on fait seul, ce travail-là. Il y a Jeannot Clair qui a été un interlocuteur important. Pascal Matuzek aussi, qui est arrivé à la fin du processus, qui a fait une lecture extrêmement fine. Évidemment, il y a eu beaucoup de discussions avec Olga Duhamel-Noyer au cours de l'édition. Je pense que j'ai été satisfaite quand j'ai envoyé le texte ou presque, que je n'aurais pas fait si j'avais pas été certaine d'être allée au bout du travail que j'avais à faire, puis d'être fière de ce que ça donnait. Et surtout de constater que c'est devenu un roman en français. Mm-hmm. J'étais toujours très, très, très respectueuse et au plus près possible de la plume de Kim. Mais en même temps, bon, il ne faut pas que ça soit juste une transcription. À la dernière lecture, je me suis rassurée moi-même en constatant que ça avait des qualités littéraires qui était intrinsèque à la langue française. Donc, ça se lisait comme un roman en français. Et ça m'a rassuré, ça m'a soulagé. Et là, on a pu le larguer dans la nature. Alors, c'est à vous de me dire si on a eu raison. Mais jusqu'à la fin, on s'est posé des questions.
Alors, pour finir, puisque je tiens l'éditrice des éditions Héliotrope avec moi, peut-être un mot sur les livres attendus pour la rentrée, dont on parlera forcément et certainement à Mission Encre Noire.
Oui, vous avez vu passer le troisième roman de Kevin Lambert, qui est une œuvre magistrale, à mon humble avis. C'est un livre très dense, très souple et très intelligent sur la façon dont les gens puissent justifier leur place dans la société. Il y aura ensuite le premier roman tout en paillettes de Benjamin Gagnon-Chénier qui s'appelle Candy. Ça va paraître très bientôt et on va faire un lancement le 21 à la librairie d'Histoire Outremont. Si vous avez envie de vous déplacer pour accueillir cette nouvelle voix dans la littérature, c'est quelque chose de très difficile à décrire, très baroque. On dit un peu entre du Bajlerman et un roman gothique du 19e siècle. C'est quelque chose d'assez particulier. Donc, j'espère que vous en ferez la découverte. Ensuite, Catherine Mavrikakis nous revient avec un roman magnifique qui s'appelle Niagara. où elle poursuit un peu le travail de deuil de sa mère, mais dans un roman complètement libre, complètement éclaté, où on suit le cadavre de sa mère qui a poté nager gaiement dans les eaux du Mississippi. Et puis, pour finir, un essai à quatre mains de Jennifer Bélanger et Martine Melvaux sur les allongées. C'est les femmes qui sont assignées à domicile, alitées, sur les douleurs chroniques. Est-ce que cette position-là dans le monde ouvre comme point de vue et représente comme force de regard, en fait? Alors, c'est notre saison d'automne chez Héliotrope.
Voilà. Annie Goulet, vous nous permettez, grâce à cette traduction, de pouvoir arpenter la lecture de ce roman fort en émotion et d'approcher une écrivaine qui a été lauréate de l'Edmund White Award for Debut Fiction for Today I Am a Boy, paru chez Héliotrope en 2020. Un livre également sélectionné au prix des libraires. C'est tout le destin que l'on souhaite à cette nouvelle parution. 5 filles perdues à tout jamais par Kim Fu, avec une traduction de l'anglais par Annie Goulet, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Merci Annie d'être passée à Mission Encre Noire.
Merci Eric. Si je peux me permettre, juste en terminant, Kim Fu nous fait l'honneur de sa présence à la fin du mois. Nous allons la recevoir à la librairie Le Port de Tête le dimanche 25 septembre pour un lancement de son roman et un petit entretien, peut-être une petite lecture d'extrait. Donc, je voulais vous le dire, elle nous visite de chez elle à Seattle, et donc ça vaut la peine d'en profiter pour aller la rencontrer. C'est vraiment une écrivaine fascinante.
Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission Pierre Lefebvre pour nous présenter Le Virus et la Proie, un essai paru en 2022 aux éditions Éco-Société, ainsi qu'en deuxième partie d'émission. Annie Goulet est venue nous présenter sa traduction du roman 5 filles perdues à tout jamais par Kim Fu, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Fedeu, acho que... O negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava tão entupido.
Gostoso!
Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
Jorjão!
Vai, garoto!
Fala a verdade.
Isso tá bom.
Não, nem a cerveja que eu não sei. Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
Agora um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.
Tá brincando,
pra...
Dudu!
Olha,
depois já viu, né?
Olha aí,
gestão dá certo.